Toi, petit coin là. Il y a trois points. Mais ceci est un aspect seulement de la force qui travaille pour la perfection. Le processus du yoga intégral comporte trois étapes, non pas en vérité nettement distinctes ou séparées, mais dans une certaine mesure successive. Il doit y avoir d'abord l'effort vers au moins un début de surpassement de soi qui permette le contact avec le divin. Ensuite, la réception au-dedans de nous de ce qui nous surpasse, de ce avec quoi nous avons obtenu la communion pour la transformation de la totalité de notre être conscient. Enfin, l'utilisation du moi humain transformé comme centre divin dans le monde. Tant que le contact avec le divin n'est pas établi d'une façon assez considérable, tant qu'il n'y a pas, dans une certaine mesure, une identité continue, l'élément d'effort personnel doit normalement prédominer. Mais, dans la mesure où ce contact s'établit, le sadhak doit devenir conscient d'une force autre que la sienne, une force surpassant son effort et sa capacité égoïste est à l'œuvre en lui. Et il apprend progressivement à se soumettre à ce pouvoir et à lui abandonner la charge de son yoga. Finalement, sa force et sa volonté propre s'unissent au pouvoir supérieur. Elles se fondent dans la volonté divine et sa force transcendante et universelle. Dorénavant, il la trouvera présidant à la transformation nécessaire de son être mental, vital et physique, avec une sagesse impartiale et une efficacité providentielle dont l'ego avide et intéressé est incapable. Quand cette identification, cette absorption de soi sont complètes, le centre divin dans le monde est prêt, purifié, libéré, plastique, illuminé, il peut commencer à servir de moyen d'action directe au pouvoir suprême dans le plus large yoga de l'humanité, ou de la surhumanité, du progrès spirituel de la terre ou de sa transformation. En vérité, c'est toujours la puissance suprême qui agit. La conscience que nous avons de notre aspiration et de notre effort personnel provient de la tentative de notre mental égoïste pour s'identifier d'une façon fausse et imparfaite aux travaux de la force divine. Il persiste à vouloir appliquer à l'expérience sur un plan supranormal les termes ordinaires de son rapport avec les expériences normales du monde. Dans le monde, toutes nos actions sont celles de l'égoïsme. Nous déclarons que les forces universelles à l'œuvre en nous sont les nôtres. Nous revendiquons comme l'effet de notre volonté, notre sagesse, notre force, notre vertu personnelle, l'action de sélection formatrice et progressive accomplie par le transcendant dans notre cadre mental, vital et corporel. L'illumination nous apporte la connaissance que l'ego n'est qu'un instrument. Nous commençons à percevoir et à sentir que ces choses sont nôtres seulement en tant qu'elles appartiennent non au moi instrumental, mais à notre moi suprême et intégral, qui est un avec le transcendant. Nos limitations et nos déformations sont notre contribution au travail. Le vrai pouvoir en nous est le pouvoir divin. Quand le moi humain reconnaît que sa volonté est un outil, sa sagesse une ignorance, et un enfantillage, sa puissance, un tâtonnement d'enfant, sa vertu, une prétentieuse impureté, et qu'il apprend à se confier à ce qui le dépasse, c'est pour lui le salut. L'apparente liberté et l'affirmation propre de notre être personnel auquel nous sommes si profondément attachés cache la suggestion la plus pitoyable, un millier de suggestions, d'impulsions, de forces que nous avons rendues étrangères à notre petite personne. Notre ego se vantant de sa liberté est à chaque instant un esclave, un jouet et une marionnette pour les êtres, les puissances, les forces, les influences innombrables de la nature universelle. dans son abdication envers le divin, l'ego trouve son accomplissement. Dans sa soumission à la divine transcendance, il s'affranchit de tout esclavage et de toute limite et obtient la parfaite liberté. Cependant, dans le développement pratique, chacune de ces trois étapes a sa nécessité, son utilité, et il faut lui donner son temps et sa place. Ce ne serait ni sûr, ni efficace de commencer par la dernière et la plus haute seule. Sauter prématurément de l'une à l'autre ne serait non plus le correct procédé, car même si, dès le commencement, nous reconnaissons le suprême avec notre pensée et notre cœur, il y a des éléments dans la nature qui pendant longtemps empêchent cette reconnaissance de devenir une réalisation. Et sans cette réalisation, notre croyance mentale ne peut pas devenir une réalité dynamique. Elle n'est qu'une forme de connaissance, non pas encore une vérité vivante, une pensée, et non pas un pouvoir. Et même s'il y a un début de réalisation, cela peut être dangereux d'imaginer ou de présumer trop tôt que nous sommes entièrement entre les mains du Suprême, ou que nous agissons comme ses instruments. Cette présomption peut introduire une fausseté funeste. Elle peut produire une inertie impotente, ou, en magnifiant avec le nom divin les mouvements de l'ego, elle peut déformer et ruiner de façon désastreuse la marche du yoga. Il est une période plus ou moins longue d'efforts intérieurs et de luttes au cours de laquelle la volonté individuelle doit rejeter l'obscurité et les déformations de la nature inférieure et se ranger résolument ou avec véhémence du côté de la lumière divine. Les énergies mentales, les émotions du cœur, les désirs vitaux et l'être physique lui-même doivent être contraints à prendre l'attitude droite ou éduqués à admettre les influences droites et à y répondre. C'est alors, quand ceci a été vraiment fait, que la soumission de l'inférieur au supérieur peut être effectuée. Car alors, seulement, le sacrifice est devenu acceptable. La volonté personnelle du sadhak doit d'abord se saisir des énergies égoïstes et les tourner vers la lumière et la rectitude. Une fois ceci fait, il doit encore les éduquer à toujours reconnaître, toujours accepter, toujours suivre cette lumière et cette rectitude. Progressivement, il apprendra, tout en employant encore la volonté personnelle, l'effort personnel, les énergies personnelles, à s'en servir comme des représentants de la puissance supérieure dans une obéissance constante à l'influence la plus haute. Quand il progressera encore davantage, sa volonté, son effort, son énergie ne lui apparaîtront plus comme personnels et distincts, mais comme les activités de cette puissance et de cette influence supérieure à l'œuvre dans l'individu. Pourtant, il y a encore une sorte de vide ou de distance qui nécessite l'obscur procédé d'une transmission pas toujours exacte, parfois même très déformante, entre l'origine divine et le courant humain qui en émerge. À la fin du développement, avec la disparition progressive de l'égoïsme, de l'impureté et de l'ignorance, cette dernière séparation s'efface et tout dans l'individu s'affirme comme œuvre divine.
Pourquoi la conscience de notre aspiration est... Et... C'est le provient de la tentative de notre mental égoïste pour s'identifier d'une façon fausse et imparfaite.
On peut le mettre d'une façon très familière. L'être individuel, et particulièrement le mental en lui, ont une répulsion instinctive à admettre que c'est une autre force que leur petite force personnelle qui fait les choses. Il y a une sorte d'instinct qui vous fait être tout à fait convaincu que l'effort de l'aspiration, la volonté de progrès sont des choses qui vous appartiennent en propre et par conséquent que vous en avez tout le mérite. Depuis l'homme d'art ou de littérature ou de science qui produit quelque chose, qui étudie quelque chose, et qui est tout à fait convaincu que c'est lui-même qu'il fait. Jusqu'à l'aspirant yogi, qui est convaincu que c'est l'ardeur de sa propre aspiration, que c'est son besoin personnel de réalisation qu'il pousse. Si on leur dit, c'est une expérience que j'ai faite, si on leur dit trop tôt, mais non, c'est le divin qui aspire en vous. C'est la force divine qui produit en vous. Ils ne font plus rien. Ils tombent plat. Ça ne les intéresse plus du tout. Ils disent, bon, je n'ai rien à faire alors que le divin le fait. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est que la mentalité est une chose tellement égoïste et tellement orgueilleuse que si on lui enlève la satisfaction qu'elle recherche, elle ne collabore plus, le vital non plus. Et comme le physique est très obéissant au vital et au mental, il ne collabore plus non plus, et alors on est en face d'une masse inerte qui dit « bon, si c'est pas moi, eh bien, que le divin fasse ce qu'il veut, moi je ne fais plus rien du tout. » J'ai connu des gens qui vraiment avaient fait beaucoup de progrès, qui sont très près du moment où on émerge dans la vérité des choses, et qui sont retenus seulement par ça. Parce que ce besoin d'être la source de l'action, d'avoir le mérite de l'effort, ce besoin est tellement enraciné qui ne peuvent pas faire le dernier pas. Ça prend quelquefois des années. Si on leur dit ça, si on leur dit non, c'est pas vous, cette énergie qui est en vous, cette volonté qui est en vous, cette connaissance qui est en vous, tout ça c'est le divin, ce n'est pas ce que vous appelez vous. Ça les rend tellement misérables qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est ça qu'il veut dire dans cette phrase. Il y a des gens qui ont tellement besoin de garder le sens de leur personnalité séparée, que s'ils sont forcés d'admettre que tout ce qui s'élance vers le haut est inspiré par le divin, ou même fait par lui, ils gardent pour leur petite personne tout le côté des défauts, des fautes, des erreurs, et ils disent, ils choisissent leurs défauts. pour qu'au moins quelque chose leur reste, qui soit bien à eux, qui soit leur propriété personnelle. Oui, tout ce qui est beau, lumineux, c'est le divin. Toutes les choses horribles, c'est moi. Mais un moi, un grand moi, faut pas y toucher.
Alors, quelle est la différence quand on se sent parfois spontanément une aspiration et quand même on... Il y a des moments quand on veut aspirer, ce n'est plus spontané. Alors, quelle est la différence? Est-ce que c'est le divin, il est tel que moi, il veut aspirer, et les autres moments, il veut aspirer?
Il répond à ça, il le décrit extrêmement bien, parce que toute cette obscurité, toute cette inconscience, toute cette ignorance, ce n'est pas du tout une chose personnelle, c'est l'état du monde, l'état de la matière, l'état de la vie physique, et ça entre en vous, vous fait agir. C'est comme quelque chose qui tire les fils du pantin. Tous ces désirs, toutes ces impulsions, tous ces courants de force, c'est quelque chose qui passe à travers vous, auquel vous obéissez sans même vous rendre compte, et que vous prenez pour vous-même. Il n'y a pas de vous-même dans cette affaire-là. Ça vient de partout et ça va partout. Vous êtes une place publique. Ça entre, ça sort, ça vous fait mouvoir. Ça.
Mais pourquoi on a un défaut particulier et non pas des défauts différents?
Ça, c'est le travail de la nature. Pourquoi est-ce qu'il y a des plantes qui sont d'une façon et d'autres qui sont d'une autre, des animaux qui sont d'une manière, des animaux qui sont d'une autre? Il n'y a pas deux combinaisons semblables dans l'univers. Toutes les combinaisons sont différentes. Il n'y a pas deux mouvements semblables dans l'univers. Il n'y a rien qui se reproduise exactement. Il y a des analogies, il y a des similitudes, il y a des familles de mouvements qu'on pourrait appeler des familles de vibrations, mais il n'y a pas deux choses qui soient identiques, ni dans le temps, ni dans l'espace. Rien ne se répète. Autrement, il n'y aurait pas de manifestation, il n'y aurait qu'une chose unique. La manifestation, c'est justement la diversité. C'est l'unique qui se déploie dans l'innombrable. Indéfiniment. Rien, nulle part.
Quand est-ce que l'ego devient un instrument? Quand est-ce que l'ego devient un instrument?
Quand il est prêt pour le devenir.
Comment ça
arrive? Dans chacun, je pense que ça arrive d'une manière différente. Ça peut arriver tout d'un coup, en l'espace d'une minute, par une sorte de renversement intérieur. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des siècles, ça peut prendre plusieurs vies. Pour chacun, il y a un moment où ça arrive. Quand il est prêt. Et je pense qu'il est prêt quand il est complètement formé. La raison d'être de l'ego, c'est la formation de l'individu. Quand l'individu est prêt, l'ego peut disparaître. Mais avant ça, il ne disparaît pas. Parce qu'il a encore du travail à faire. Quand le monde sera prêt pour recevoir la création nouvelle, les forces adverses disparaîtront. Mais tant que le monde aura besoin d'être tenter, travailler, barater pour se préparer. Les forces adverses seront là pour être la tentation et ce qui frappe, ce qui pousse, ce qui vous empêche de vous endormir. Ce qui vous oblige à être absolument sincère. Un être qui est absolument sincère devient le maître des forces adverses. Mais tant qu'il y a dans un être un égoïsme ou un orgueil ou même une mauvaise volonté, il sera toujours l'objet de la tentation, de l'attaque, et il sera complètement soumis à ce conflit constant avec ce qui, sous l'apparence d'être hostile, travaille malgré soi à l'œuvre divine. Le temps n'est pas déterminé d'une façon absolue. Je vous ai expliqué ça déjà plusieurs fois. Il y a beaucoup de champs de conscience, de zones de conscience superposées. Et dans chacun de ces champs de conscience ou d'action, il y a un déterminisme qui paraît absolu. Mais l'intervention dans ce champ-là d'un champ même immédiatement supérieur, comme l'intervention du vital dans le physique, introduit le déterminisme vital dans le déterminisme physique et transforme nécessairement le déterminisme physique. Et si, par l'aspiration, la volonté intérieure, le don de soi et la soumission véritable, on peut entrer en contact avec les régions supérieures ou même la région suprême. De là-haut descendra le déterminisme suprême qui transformera tous les déterminismes intermédiaires et qui pourra produire en un espace de temps, pour ainsi dire inexistant, ce qui autrement aurait pris ou des années ou des vies pour s'accomplir. Mais c'est le seul moyen. Si au moment d'un événement ou d'une circonstance quelconque, mettez par exemple, pour simplifier, d'un danger. Si à ce moment-là, on est capable, au lieu d'essayer de lutter dans le domaine où on se trouve, si on est capable de traverser dans un grand élan tous les domaines qui sont en échelon dans la conscience vers la région suprême, vers ce que Sri Aurobindo appelle là le transcendant. Si on peut entrer en contact avec ce transcendant, dans un état de soumission parfaite, c'est lui qui agira et qui changera tout dans toutes les circonstances, au point que c'est ce que les gens appellent des miracles, parce qu'ils ne comprennent pas comment ça peut se produire. Le seul secret, c'est de savoir grimper jusqu'en haut. C'est tout. Vous voulez une méditation ?